Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, nous nous sommes interrogés sur le sens de la vie. Mais l'exposé de ce soir va porter, lui, sur la personne de Jésus. Alors, je ne sais pas si vous êtes attentif à ça, moi je le suis peut-être particulièrement en tant que pasteur, mais quand on va dans une maison de la presse, par exemple, il n'y a pas une semaine ou un mois où il n'y a pas un livre ou un magazine qui paraît sur la personne de Jésus. Et puis, plusieurs fois, je me suis fait avoir, ça semble très intéressant. Et puis, on se rend compte qu'en fait, souvent, ces articles présentent plutôt quelque chose comme étant une découverte. Il y a une révélation nouvelle et souvent, il y a même un petit côté parfum de scandale. C'est comme s'ils avaient découvert que Jésus, en fait, était ceci au lieu de cela ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que ça a tendance à brouiller l'image qu'on peut se faire de Jésus parce qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites ou dites sur Jésus. Et au bout du compte, on ne sait plus vraiment qui il est. Eh bien, puisque le parcours Alpha est une découverte de la foi chrétienne, eh bien, ce que je vous propose ce soir, c'est de chercher à mieux connaître qui est Jésus. Parce que découvrir la foi chrétienne, c'est avant toute chose découvrir la personne de Jésus. Alors nous allons procéder ce soir un peu comme lors d'une enquête où nous allons chercher à rassembler différents indices. Et la première question qu'il est bon de se poser, c'est est-ce que Jésus a vraiment existé? Ça pourrait très bien être une invention de toute pièce. Jésus a-t-il vraiment existé? Eh bien, il est intéressant de noter que même les personnes qui étaient farouchement opposées au christianisme ont attesté l'existence de Jésus. Et en particulier, les historiens romains ou juifs qui ont vécu à l'époque de Jésus. Et ces personnes, eh bien, mentionnent son existence. Comme par exemple Tacite, Suétone, ou Flavius Joseph, qui écrit même cela, voilà ce qu'il a écrit, « En ce temps-là, paraît Jésus homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. Quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau. » C'est intéressant parce que aucun de ces historiens n'avait intérêt à inventer Jésus. Parce qu'au contraire, voilà, c'était des historiens qui travaillaient pour l'Empire romain et Jésus était plutôt une écharde pour eux. Et pourtant, ils mentionnent Jésus. Et bien sûr, à côté de ces sources non chrétiennes, il y a les écrits qui ont été rédigés par les disciples de Jésus. Et au total, 27 livres qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et quatre de ces livres, les quatre évangiles, racontent en particulier l'histoire de Jésus. Alors, puisqu'on dispose d'un certain nombre de textes qui parlent de Jésus, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ces textes du Nouveau Testament, écrits il y a des siècles, eh bien, est-ce qu'ils sont fiables? Parce que au cours de l'histoire, de nombreuses personnes, souvent opposées au christianisme, ont cherché à mettre en cause la fiabilité de ces textes. Et pour cela, elles ont utilisé, c'est ce qu'on ferait tous, quand on essaye de démonter quelque chose, on utilise tous les moyens à notre disposition, et elles ont utilisé toutes les diverses techniques et moyens que la science mettait à leur disposition pour étudier, pour disséquer et pour comparer ces textes. Et maintenant, grâce à l'informatique, il est très simple maintenant de comparer entre eux des milliers de textes. Eh bien, on peut être reconnaissant à ces personnes de leurs attaques parce que ces attaques attestent, même pour des personnes qui n'ont pas fait le pas de la foi, eh bien, grâce à ces attaques, on sait qu'on peut véritablement accorder du crédit aux écrits du Nouveau Testament. Parce que grâce à toutes les études qui ont été faites, il y en a vraiment de très nombreuses, toutes ces études, pas souvent amicales, il faut le reconnaître, eh bien, il ressort que les écrits du Nouveau Testament ont vraiment une place à part dans l'histoire de l'humanité. Et en particulier, on constate qu'il n'existe aucun autre écrit dont nous disposons d'autant de manuscrits anciens. Environ 25 000 manuscrits anciens. Il n'existe également aucun autre écrit dont nous disposons de copies qui ont été réalisées si peu de temps après les événements. Et puis, il n'existe aussi aucun écrit qui ont été traduits en autant de langues différentes, autant de langues et de cultures même différentes, sans que le contenu en ait été profondément modifié. Alors, le Nouveau Testament est écrit en grec, alors j'ai feuilleté les brochures, donc il y a une erreur sur votre brochure, ils mettent Nouveau Testament latin. Alors j'ai... Je les ai contactés, le Parcours Alpha, et ils m'ont dit « oui, il y a une erreur, ils devraient en tenir compte pour la prochaine édition ». Mais le Nouveau Testament a été écrit en grec, et très rapidement, quasiment tout de suite, il a été traduit dans des dizaines de langues différentes. Et lorsque l'on compare ces différentes traductions, lorsque, à nouveau, on les met toutes ensemble, on fait le travail inverse, on les retraduit dans une langue commune, eh bien, on constate que le contenu, pour tout ce qui est essentiel, est le même. Et ça, c'est du jamais vu dans les divers écrits dont nous disposons. Et ça nous amène à quelque chose qui est de dire, mais si on ne fait pas confiance aux écrits du Nouveau Testament, alors on ne peut, intellectuellement parlant, faire confiance à aucun autre récit. Parce que pour aucun autre récit, on dispose autant de copies anciennes, de fiabilité des textes, et pourtant pour des choses qui ont été attaquées et réattaquées régulièrement. Et par exemple, il y a des choses qui ne me viendraient pas l'idée de contester. Alors vous avez peut-être lu Astérix quand vous étiez petit, comme moi, donc vous savez que la Gaule a été conquise par les Romains. Mais bien sûr, on sait aussi que après Astérix Obélix, la conquête romaine a continué, s'est étendue, et on le sait comment. Alors on le sait parce qu'on a un certain nombre de vestiges, mais on le sait aussi parce qu'on dispose de récits détaillés de la conquête de la Gaule par les Romains, et qui a été rédigé par des historiens romains dans un ouvrage qui s'appelle « La guerre des Gaules ». Alors, Jules César avait mandaté des historiens pour rassembler cette conquête des Gaules. Et puis ça, on le croit, et pourtant, ben vous savez quoi, on ne dispose que de 8 copies de ces récits. Et en plus, la copie la plus récente dont nous disposons a été rédigée au moins 900 ans après les textes originaux. Et pourtant, on fait confiance à ces écrits. Mais alors, imaginez maintenant, face à 8 copies, 25 000 documents, dont certains manuscrits datés de seulement quelques dizaines d'années après les événements qu'ils rapportent. Ces documents sont donc fiables, ou alors si on n'accorde pas de fiabilité à ces documents, on peut contester n'importe quel autre écrit. Mais alors, il se pose dans ces cas-là une question. Grâce à ces divers documents, tiens, d'accord, bon, on dispose de documents fiables, mais à partir de ça, que savons-nous de Jésus? Parce que là aussi, beaucoup de choses ont été dites sur Jésus, et parfois des choses que moi je trouve bien tristes. Mais si on veut se faire une juste idée de qui est Jésus, il faut revenir à la source. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus dans ces documents? Eh bien, les évangiles tracent de Jésus un portrait de quelqu'un qui était tout d'abord pleinement humain. Voilà, Jésus, comme nous, a vécu les grandes expériences de la vie humaine. Il est passé par la naissance, la croissance, l'éducation, également la tentation, le travail, le deuil. Il a connu le rejet et la mort. On sait que Jésus pouvait être fatigué, avoir faim, rire ou pleurer, et puis qu'il éprouvait les mêmes émotions que nous. L'amour, la joie, la tristesse, la colère, l'espérance. Et à la lecture des évangiles qui nous rapportent ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, on comprend mieux pourquoi, même en dehors de la chrétienté, tellement de personnes dans le monde se sentent attirées par Jésus. Et pourquoi Jésus est considéré comme étant vraiment un être exceptionnel, un grand maître spirituel. Mais la question, malgré tout, qu'on peut se poser encore, c'est Jésus était un homme. Ça, le Nouveau Testament, les évangiles le mettent bien en avant. C'était un grand maître spirituel, d'accord? Mais est-ce qu'il était aussi plus que cela? Jésus était-il plus qu'un homme d'exception et un grand maître spirituel? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut, le mieux, c'est de voir ce que Jésus disait de lui-même, directement. Qui Jésus pensait-il être? L'enseignement de Jésus montre qu'il était convaincu d'être à la fois homme, mais aussi à la fois Dieu. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Pleinement homme, pleinement Dieu. L'enseignement de Jésus était donc par conséquent très différent de celui de tous les autres maîtres spirituels. Parce que alors que les autres maîtres spirituels montraient la divinité du doigt, en disant voilà où est Dieu, Jésus mettait Dieu en avant, bien sûr, mais tout en centrant son enseignement sur lui-même. Voici quelques citations de Jésus. Tirez donc des évangiles. Alors, à ceux qui ont faim d'amour, de sincérité, qui recherchent un sens à leur vie, Jésus dit, en Jean 6, il dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À ceux qui sont dans la tristesse et désespérés, à ceux qui ont perdu tout espoir dans la vie et qui ne savent plus vers qui ou vers quoi se tourner, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. À ceux qui sont écrasés par la vie et rongés par la culpabilité de ne pas être à la hauteur, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, encore moi, je vous donnerai du repos. À ceux qui ont peur de la mort, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. À ceux qui veulent voir Dieu, le Père éternel, Jésus dit, mais qui m'a vu, a vu le Père. Jésus centre son enseignement spirituel sur lui-même. Le recevoir lui, c'est recevoir Dieu. L'aimer lui, c'est aimer Dieu. Le voir lui, c'est voir Dieu. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en train de faire un dessin. Et puis vous savez, des fois, moi je vois parmi mes enfants, j'en ai qui dessinent extraordinairement bien, et puis d'autres qui malheureusement dessinent comme moi. Et puis, des fois, on ne sait pas toujours, surtout quand le dessin est au début, on ne sait pas trop ce que l'enfant veut faire. Et là, c'est le cas. Cette mère voit sa petite fille faire un dessin, et puis elle lui demande, mais qu'est-ce que ça représente? Et la petite fille répond, je dessine Dieu. Alors, la maman dit, mais ce n'est pas possible. Personne ne sait à quoi Dieu ressemble. Et la petite fille lui répond, Eh bien, quand j'aurai fini mon dessin, on le saura. Eh bien, c'est un peu ce que Jésus a fait et a dit. Vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble? Eh bien, Jésus dit, regardez-moi. Au-delà de cet enseignement centré sur lui-même, Jésus a indiqué par diverses affirmations, souvent indirectes, qu'il était Dieu. Et il a en particulier dit et fait des choses qui étaient réservées à Dieu seulement. Jésus a par exemple dit qu'il était capable, lui, de pardonner les péchés. Alors, lorsqu'il a dit ça, les religieux de l'époque, les spécialistes de tout ce qui était Dieu, eh bien, se sont écriés, mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus dit, moi, je peux pardonner les péchés. Jésus a fait aussi une autre déclaration extraordinaire en affirmant qu'à la fin des temps, à la fin du monde, il reviendrait, s'assirait sur son trône de gloire et jugerait le monde. Matthieu 25. Voilà, les nations, les êtres humains seront rassemblés devant lui et lui, il les jugera. Et notre sort dépendra alors de la manière dont nous lui aurons répondu au cours de notre vie. Non seulement Jésus centrait son enseignement sur lui-même, non seulement il faisait ce qui est réservé à Dieu, mais Jésus s'est aussi présenté comme étant de condition divine. Alors je ne lirai qu'un récit tiré de l'évangile de Jean au chapitre 10, où Jésus dit ceci, « Le Père et moi, nous sommes un. » Là aussi, il dit ça, son auditoire comprend tout de suite où il veut aller. Et alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapiderez-vous ? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas à cause d'une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Et cela a attiré la haine des religieux de l'époque qui ont décidé de le mettre à mort à cause de cela. Parce que Jésus, qui était un homme, se présentait également comme Dieu. Alors là, ça nous amène maintenant au dernier volet de notre enquête. Quelles raisons avons-nous de croire Jésus? Est-ce qu'il y a des raisons? Jésus dit cela, mais chacun peut dire ce qu'il veut de lui-même. Mais est-ce que nous avons des raisons de croire que ce que dit Jésus est vrai? Parce que bon, alors mon épouse a travaillé pendant quelques années dans un hôpital psychiatrique et c'est pas une caricature. Je veux dire, il y a des gens qui sont là-bas et qui s'imaginent être donc Napoléon. Moi, je croyais que c'était que dans les histoires que plus personne pensait être Napoléon. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils sont Napoléon. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Dieu également. Jésus pourrait très bien être quelqu'un comme ça, un fou. Pourquoi le croire lui plus qu'un autre? Je ne sais pas si vous avez vu une série de films ou lu le livre qui s'appelle Narnia. Il y avait un auteur qui s'appelle C.S. Lewis qui a écrit cela. Et cet auteur résume ainsi le choix auquel nous sommes confrontés. Et il dit, soit Jésus était et est le Fils de Dieu, soit c'était un fou ou un imposteur. Et afin de vous aider à vous forger votre propre opinion, je voudrais vous présenter 5 pièces à conviction. Tout d'abord, les enseignements de Jésus. Nous avons parlé que Jésus centrait son enseignement sur lui-même, mais son enseignement a également eu un impact dans la vie des gens. L'enseignement de Jésus a profondément touché les cœurs et transformé en bien notre civilisation. Par exemple, Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est magnifique, ça. Eh bien, cette affirmation, et lorsque Jésus a dit ça, les mœurs de l'époque n'étaient pas particulièrement tendres. Eh bien ça a conduit des milliers de disciples de Jésus à créer des orphelinats, à fonder des hôpitaux, à inventer la Croix-Rouge, à apporter soins et éducation aux pauvres. Son enseignement a été reçu et a porté du fruit. Dans son enseignement, Jésus a également pris le contre-pied des religieux de l'époque. Je pense même que l'enseignement de Jésus continue encore maintenant à prendre le contre-pied de la plupart des choses qu'on entend sur la religion. Et Jésus a en particulier mis en avant que la véritable piété, ce n'est pas une attitude extérieure, ce n'est pas des choses qu'on doit faire, mais c'est avant tout l'attitude de notre cœur. Pour Jésus, la foi, ce n'est pas suivre une religion, ce n'est pas rentrer dans un moule, mais c'est avant tout une relation intime, une relation d'amour et une soumission volontaire à Dieu. Quelque chose qui ne passe par le cœur. Deuxième indice, les œuvres de Jésus, ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus était à enseigner, il aurait pu facilement, il avait un tel impact auprès des foules, il aurait pu facilement tirer parti pour se faire proclamer roi, pour avoir un certain nombre de richesses. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a cherché. Jésus n'a pas cherché pour lui-même à être puissant. Il n'a pas cherché non plus la faveur des puissants, de bien se faire voir par eux. Mais il a au contraire, ouvertement, pris le parti des plus faibles et des exclus. Des pauvres, des femmes, des enfants, des malades. Jésus a accompli également de nombreux miracles. Alors, certains miracles étonnants et même dérangeants pour notre conception de la religion. Comme par exemple, un miracle étonnant, lorsqu'à l'occasion d'un mariage, je sais pas, vous avez souvent sûrement entendu parler des fois des noces de Cana. Eh bien, à cette occasion, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a transformé en vin la totalité de l'eau dont les personnes religieuses se servaient pour faire leur purification rituelle. Voilà. Des jarres qui étaient destinées à ces purifications, Jésus a tout transformé en vin. Oh. Inutile que ça a dû cogiter, c'est certain. Pourquoi est-ce que Jésus a fait une chose pareille? En plus, son premier miracle devant ses disciples, avec ses tout premiers disciples. On ne se serait probablement pas attendu à cela d'une personne comme lui. Et puis Jésus a fait d'autres miracles spectaculaires, comme lorsqu'en présence de nombreuses personnes, il ressuscite Lazare, son ami qui était mort déjà depuis 4 jours. Ou comme lorsque devant des milliers de témoins, il multiplie quelques pains et quelques poissons de façon à nourrir la foule qui l'entoure. Jésus a accompli des choses qui ne peuvent venir que de Dieu. Troisième indice, la personnalité même de Jésus. La personnalité de Jésus a marqué des millions de personnes. Comment était Jésus? Jésus était quelqu'un de simple, d'accessible, de humble, de désintéressé, de joyeux. Il était bon, attentif aux autres, authentique, entier, courageux. Il avait un caractère gai. Il aimait faire la fête, ça lui a même été reproché par ses détracteurs. Et les gens aimaient être avec lui, des gens de toutes conditions. On dit que le fond d'une personnalité se révèle véritablement lorsque la personne connaît la souffrance et les difficultés. Quand tout va bien, on est des gens formidables. Eh bien, lorsque Jésus est cloué sur une croix, Jésus souffre, sait qu'il va mourir. Eh bien, qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Il manifeste de l'amour et il prie pour ses bourreaux, pour ceux qui viennent de le crucifier. Et il dit ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils savaient très bien qu'ils étaient en train de mettre un homme à mort. Mais ils n'étaient pas forcément conscients de tout le cheminement qui les avait amenés à cela. Pour que Jésus soit condamné à mort, en plus, parce qu'il est passé devant un tribunal, eh bien, ses adversaires ont dû inventer contre lui de fausses accusations. Et pourtant, ses adversaires étaient nombreux. Ils guettaient chacun de ses gestes. Ils épiaient chacune de ses paroles. Ils lui ont tendu même de nombreux pièges. Mais jamais, ils n'ont pu trouver en lui la moindre petite faute, ni dans sa vie publique, ni dans sa vie privée. Rien qui n'aurait pu même monter en épingle. Ils ont dû tout inventer. Est-ce qu'une telle personnalité, est-ce que vraiment quelqu'un qui ne serait pas à part, unique, eh bien, est-ce que cette personne aurait pu avoir agi ainsi, avoir une vie telle que Jésus? Est-ce que cette personne aurait pu être un fou ou un imposteur? Jésus avait vraiment une personnalité unique. Quatrième indice, par sa vie, Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, dans nos Bibles, il y a deux parties, l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, on va dire, c'est tout ce qui a été écrit avant Jésus. C'est ce que les Juifs considèrent comme étant leur Bible. Et les textes les plus récents de l'Ancien Testament s'arrêtent 400 ans avant la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament, lui, démarre à partir de la naissance de Jésus et rapporte l'histoire donc, de Jésus et des premiers disciples sur une période environ de 70 ans. Eh bien, par sa vie, Jésus a accompli près de 300 prophéties du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament, pardon. Ça aurait été plus facile du Nouveau. Mais non. De l'Ancien Testament, écrit des siècles auparavant, près de 300 prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament se sont réalisées en Jésus. Et au moins 25 de ces prophéties ont été accomplies en une seule journée, celle de sa mort. Cinquième indice, et c'est probablement le plus important, c'est sa victoire sur la mort, la résurrection. Et compte tenu de l'importance de ces indices, nous passerons un petit peu plus de temps sur celui-ci, parce que la résurrection physique et réelle de Jésus est vraiment la pierre angulaire du christianisme. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi des chrétiens est vaine et nulle si Jésus n'est pas ressuscité. Alors, là, ça vaut vraiment la peine de se poser cette question, et moi je me la suis posée pendant longtemps. Est-ce que c'est véridique ou est-ce que c'est un mythe? Et moi, pendant plus de 20 ans, j'ai cru que c'était un mythe, une invention de toutes pièces. Je ne suis probablement pas le seul à me dire cela ou à m'être dit cela. Alors face au tombeau, puisqu'on peut s'appuyer sur les textes, et que le tombeau de Jésus était trouvé vide, alors là, on peut se poser à nouveau plusieurs questions. Et la première, c'est peut-être celle-ci, mais et si Jésus n'était pas vraiment mort? Ça expliquerait pourquoi Jésus a été vu vivant après. Est-ce que Jésus a réellement été crucifié? Parce qu'on entend parfois dire, mais en fait, c'est pas Jésus qui a été crucifié. Eh bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, c'était bien Jésus. Ce n'était pas un sosie qui aurait été arrêté, par exemple, à sa place, ou bien qui l'aurait remplacé au cours de son arrestation. Parce que on voit qu'au moment de son arrestation, Jésus, là, a encore accompli un miracle. Les soldats venaient pour l'arrêter. Un de ses disciples avait une épée, a sorti, a coupé l'oreille d'un de ses soldats. Et Jésus l'a guéri. Jésus a accompli un miracle, mais en même temps, ce miracle que seul pouvait accomplir Jésus donnait aussi la preuve que celui qui était là était bien Jésus et pas quelqu'un qui lui ressemblerait. Jésus a été arrêté et ensuite, on voit ça parmi tous les récits que nous avons, entre son arrestation et sa crucifixion, Jésus va demeurer sous la garde constante et sous la surveillance de ses ennemis. Impossible de s'échapper. Et en plus, on voit que, alors qu'il était cloué sur la croix, on voit que Jésus va parler à sa mère et à un de ses disciples les plus proches, qui eux ont pu aussi constater que c'était bien Jésus qui était sur la croix. C'est bien Jésus qui a été crucifié. Alors peut-être, moi je fonctionnais comme ça avant, hein, c'est dire, mais alors, ok bon, il a été crucifié, mais peut-être qu'il n'est pas réellement mort. Ça arrive, hein, des gens qui semblent morts. Moi j'ai été pompier pendant un certain nombre d'années, j'ai vu des gens qui semblaient morts, mais qui, quand on repartait, étaient vivants. Et pourtant, je considère que je n'ai jamais ressuscité quelqu'un. Quelqu'un peut avoir l'apparence de la mort. Quelqu'un peut simuler la mort. Eh bien oui, Jésus est bien mort sur la croix. Et c'est les textes dont nous disposons qui nous disent cela. En particulier, les gardes romains, donc, voilà, qui veillaient, hein, sur Jésus, même cloué sur une croix, les gardes romains qui étaient en place se sont assurés, déjà une première fois, que Jésus était bien mort. Jean 19, il est écrit ceci, « Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Et par ailleurs, Pilate, qui était le gouverneur romain qui avait autorisé son exécution, lorsqu'il a été informé de la mort de Jésus, il a demandé à un de ses officiers d'aller vérifier si c'était bien vrai. Il était vérifié, attesté, que Jésus était bien réellement mort sur la croix. Alors autre chose, hein, qui ont circulé, c'était celle-ci, mais bon d'accord, Jésus était crucifié, il est mort, mais est-ce que ce n'est pas ses disciples qui auraient volé son corps et puis qui ensuite auraient répandu la rumeur de sa résurrection? Voilà, hein, c'est comme un prestidigitateur, il vous montre, il y a quelque chose dans une boîte, hop, il fait un tour de passe-passe, la boîte est vide. Est-ce que ce ne serait pas la même chose? Eh bien, le corps de Jésus a été placé dans une tombe, scellé, et placé sous la garde armée de ses ennemis. Ses disciples ne risquaient pas de venir voler le corps, d'autant plus qu'en plus, ses disciples, hein, franchement, ils n'étaient pas en état de faire ça. Eux, ils étaient effondrés, traumatisés par ce qui s'était passé. Un tombeau gardé, fermé, scellé, gardé. Ses disciples ne risquaient pas de le faire, des voleurs non plus. Il aurait fallu également, eux, qu'ils passent la garde armée. Et à cette époque-là, hein, on sait dans les mœurs des Romains, hein, que lorsque des soldats avaient la garde de quelque chose, si par exemple ils gardaient un prisonnier et le prisonnier s'échappait, les soldats étaient redevables de leur vie. Je peux vous dire que ce n'était pas le genre de soldat qui s'endorme lorsqu'il gardait un prisonnier ou lorsqu'il gardait quoi que ce soit. Donc des voleurs n'auraient pas pu s'approcher non plus, puis qu'est-ce qu'ils auraient pu voler? Les voleurs. La seule chose qui avait de la valeur dans le tombeau de Jésus, c'était le linceul. Pour nous maintenant, ça semblerait négligeable, hein, des bandes de tissu, mais à l'époque, un linceul, ça représentait quelque chose. Et bien en plus, ce linceul est la seule chose qui est restée en place dans le tombeau. Et en plus, le linceul avait cette particularité qu'il n'avait pas été, donc c'est une grande bande, hein, qui entourait le corps, il n'avait pas été défait, mais il semblait être là comme si le corps de Jésus était passé à travers. Et c'est même lorsque Jean, celui qui a écrit l'évangile, c'est lorsque lui a vu cela, lui l'a constaté de ses yeux, qu'il s'est mis à croire. Jésus est bien mort sur une croix. Pourtant, son tombeau était vide et il n'y a aucune explication rationnelle pour expliquer cela. Alors si le corps de Jésus n'a pas été retrouvé dans le tombeau, en revanche, Jésus, lui, est bien apparu vivant à ses disciples. Et les apparitions de Jésus se rajoutent au faisceau de preuves déjà conséquents qui plaident en faveur de sa résurrection. Parce que dans les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, un grand nombre de personnes ont vu Jésus. Plus de 500 personnes dans au moins 11 occasions différentes. Alors, là, on peut aussi se demander, mais est-ce que ce ne sont pas simplement des hallucinations ou bien le produit de l'imagination de ceux qui espéraient sa résurrection. Il y a tellement de gens, peut-être, qui auraient espéré que ce soit vrai. Eh bien, moi, j'aime beaucoup la Bible parce qu'en fait, la Bible nous présente les choses telles qu'elles étaient et pas telles que nous aimerions qu'elles soient. Et des fois, la Bible trace des portraits, des personnes, des héros, entre guillemets, de la foi, qui ne sont pas toujours à leur avantage. Et puis, je ne sais pas quelle idée vous vous faites, vous, des disciples de Jésus, mais la Bible nous rapporte que après la mort de Jésus, eh bien, les disciples, ils n'étaient pas très brillants. Et leur foi, elle n'était pas très, très assurée. Ce qui apparaît quand on lit les évangiles, c'est que les propres disciples de Jésus, ceux qui pourtant avaient été enseignés par lui pendant 3 ans, Jésus à plusieurs reprises leur avait annoncé que ça allait se produire, qu'il allait mourir et ressusciter, eh bien ses propres disciples n'y croient pas. Oh, triste. Lorsque par exemple le lundi de Pâques, des femmes vont au tombeau, et puis oh, elles constatent que le tombeau était vide, la pierre a été roulée, le tombeau était vide, elles constatent également Jésus leur apparaît ressuscité, elles sont dans la joie, qu'est-ce que font ces femmes? Elles partent en courant retrouver les disciples, elles disent aux disciples Jésus ressuscité. Et voilà ce que nous dit l'évangile de Luc, en chapitre 24, qu'est-ce que font les propres disciples de Jésus? Ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes, les propres disciples de Jésus. Lorsqu'un peu plus tard, Jésus apparaît au milieu d'eux, voilà, les disciples sont enfermés dans une pièce, et puis ils sont un peu chamboulés parce que bon, des femmes ont dit ça, et d'autres disciples qui étaient un peu plus loin sont également revenus pour dire « mais si, c'est vrai, on l'a vu ». Donc ils sont là, ils se discutent entre eux, et à un moment, Jésus apparaît au milieu d'eux, et bien là encore, ses disciples n'y croient pas. Jésus doit même leur dire, en Luc 24, il leur dit « mais regardez mes mains et mes pieds, voilà, c'est bien moi ». Il leur dit même « touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai ». Ses propres disciples croyaient qu'en fait c'était un fantôme qui était là. « Touchez-moi », leur dit-il, et puis comme apparemment ça ne semble pas suffire à les convaincre, Jésus leur dit « mais est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et puis, voilà, devant eux, ils mangent. Quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Casper. C'était un petit fantôme. Et c'était intriguant, parce que moi, ça m'intriguait, parce que Casper était transparent. Mais peut-être qu'ils disaient la même chose. Là, c'est un fantôme, ben, Jésus prend des aliments, et puis il les mange, puis ben non, les aliments, ils ne retombent pas par terre. Jésus est bien réel. Les propres disciples de Jésus ont eu de la difficulté à croire en sa résurrection. Et leur problème, à eux, ce n'était pas d'avoir des hallucinations, ce n'était pas non plus qu'ils étaient trop crédules. Leur problème, c'était exactement le contraire. Ils ont eu du mal à croire que Jésus était bien revenu de la mort, comme Jésus leur l'avait pourtant promis. Autre signe en faveur de la réalité de la résurrection de Jésus, c'est l'impact immédiat que cela a eu sur ses disciples. Que donc après sa mort, les disciples étaient désespérés. Il faut les comprendre. Hein. Leur maître était mort. Ils pensaient que Jésus allait un jour être proclamé roi, qu'il allait délivrer le peuple qui était là. Or, en fait, Jésus est arrêté comme un criminel, jugé. Jésus est mort. Et leur espoir est mort aussi avec lui. Les propres disciples se cachent parce qu'ils redoutent également pour leur propre vie. Et soudain, de peureux terrés, eh bien, on voit que les disciples se mettent à proclamer que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et ils n'ont aucun intérêt à dire cela. Je veux dire cela, c'était pour eux s'exposer à la honte, mais aussi à la mort. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et leur conviction est si grande et leur espoir si fort, eh bien, ils vont même continuer à proclamer que Jésus est vivant une fois qu'ils auront été arrêtés. Et plusieurs des disciples de Jésus vont être battus et même vont mourir à cause de leur espérance. Pourquoi étaient-elles prêts à perdre leur vie et avoir tous ces ennuis? parce qu'ils avaient vu Jésus vivant et qu'ils avaient la conviction que, comme Jésus était revenu de la mort, eh bien, eux aussi pourraient connaître la résurrection. Autant il y a une époque peut-être où faire partie, entre guillemets, des chrétiens vous apportait un statut social et un certain confort dans la vie, autant à cette époque-là, c'était exactement l'inverse. Et pourtant, des hommes et des femmes ont proclamé que Jésus était ressuscité et ont perdu leur vie à cause de cela. Le dernier signe en faveur de la résurrection de Jésus, c'est l'expérience de la rencontre avec Jésus qu'ont fait des millions de chrétiens au cours des âges. Des millions d'hommes ou de femmes, au cours des siècles, ont fait l'expérience de la rencontre avec Jésus. Alors, pas une rencontre physique, mais pourtant, une rencontre bien réelle. Une rencontre qui a transformé leur vie. L'enquête sur Jésus nous laisse face à trois possibilités. C'est un fou, un imposteur ou Dieu lui-même. Et voilà, le dossier est là, avec de nombreux indices, et le faisceau de preuves est conséquent. Sherlock Holmes, qui était un maître dans l'art de l'enquête, raisonne ainsi. Quand on a éliminé ce qui est impossible, ce qui reste, même si cela semble improbable, doit être la vérité. L'examen des pièces à conviction nous permet d'éliminer deux hypothèses sur trois. Jésus n'était ni un fou, ni un imposteur. Voilà pourquoi, dit à nouveau C.S. Lewis, aussi étrange, et ça l'est, aussi étrange, impressionnant ou invraisemblable que cela puisse paraître, il me faut voir Dieu en lui. Dieu est venu dans ce monde sous une forme humaine. Je voudrais maintenant permettre à ceux qui le souhaiteraient de prier, alors ce n'est pas une obligation, de prier avec moi. Et afin de ne mettre personne mal à l'aise, je vous demande simplement d'incliner vos têtes pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Dieu Tout-Puissant, merci car tu as fait en sorte de nous apporter un certain nombre d'éléments et de témoignages qui atteste de la personne de Jésus et qui atteste qu'en Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous, que Dieu s'est fait homme. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons de la difficulté à voir ou accepter ce que tu nous montres. Et Seigneur, s'il te plaît, eh bien, aide chacun de nous à voir. Touche nos cœurs, ouvre notre intelligence pour que nous puissions recevoir et accepter ce qui vient de toi et qu'ainsi chacun de nous puisse faire un pas en ta direction. Amen. Merci.